Divergence FM,
c'est une philosophie, une façon de voir les choses.
Divergence FM a laissé traîner câble et micro le 8 octobre 2012 dans la salle municipale Guillaume de Nogaret à Montpellier. Sur invitation du parti de gauche 34, le journaliste François Ruffin était invité pour une conférence intitulée « Contre le fatalisme, vive le protectionnisme ». Journaliste, donc, François Ruffin a, en plus d'avoir fondé le journal trimestriel Fakir, que l'on recommande vivement, et ses activités au sein de Radio France aux côtés de Daniel Mermet ou encore du Monde Diplomatique, François Ruffin a publié un ouvrage fort intéressant en 2011 intitulé « Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes », paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Ce sont ces pulsions que nous vous proposons d'écouter et d'apprécier ou non. C'est cela.
Bon, je vais intervenir sans micro. Ceux qui n'entendent pas et qui sont au fond n'auront qu'à se rapprocher de toute façon. La première chose que je dirais, c'est d'abord des remerciements auprès des personnes qui ont organisé cette réunion publique. Puisque quand vous avez la chance de vous venir présenter vos idées comme ça, c'est qu'en amont, il y a un travail militant qui s'est opéré. Je ne dirais pas de mettre les chaises pour ce soir, puisque j'y ai contribué, mais de réserver la salle, de distribuer des tracts, de faire un certain nombre de choses comme ça. Et ça permet qu'il y ait des canaux de diffusion des idées qui continuent d'exister hors des médias dominants. Le deuxième point pour lequel je remercie la puissance invitante, c'est que c'est un sujet qui ne fait pas consensus, y compris au sein des organisations de gauche et y compris au sein du Front de gauche, puisque le mot protectionnisme, par exemple, est complètement absent du programme L'Humain d'abord, on pourrait y revenir. Mais pour moi, il ne s'agit pas de dire ce soir que le protectionnisme est la clé de tout, mais que c'est un outil dans la boîte d'outils et que c'est un outil à portée de notre main. Donc simplement, je vais vous expliquer ce soir comment je suis devenu protectionniste. C'est-à-dire qu'on ne naît pas protectionniste, hein, on le devient. Je veux dire, quand on a 16 ans, quand on se considère plutôt à gauche, quand on aime bien voyager et des choses comme ça, on ne se dit pas « vive les douaniers, chouette, il faut des barrières aux frontières » et ainsi de suite. Ce n'est pas du tout quelque chose de naturel, c'est un mouvement qui est politiquement pensé. Donc je vais vous expliquer comment moi ça m'est arrivé. Donc déjà, en 2007... Fakir titré « Contre le fatalisme, vive le protectionnisme ». À l'époque, on mettait un point d'interrogation et je dirais que 2-3 ans après, on y mettait un point d'exclamation. Alors, l'organisation de mon exposé sera simple. Dans un premier temps, ça sera contre le libre-échange. Dans un deuxième temps, ça sera pour le protectionnisme. Le premier, donc contre le libre-échange, c'est pour que vous puissiez prendre des notes et puis que l'exposé soit clair ensuite. Le premier plan social sur lequel j'ai vraiment bossé pour Fakir, c'était en 2001, et c'était la délocalisation des lave-linges de Whirlpool qui partaient d'Amiens. Quand je ne précise pas, c'est Amiens, c'est la Somme, c'est la Picardie, d'accord ? Qui partaient d'Amiens pour Poprad en Slovaquie. Et j'assiste donc, il y avait eu une une du courrier Picard qui était coup de tonnerre sur l'emploi. On avait Gilles de Robien qui disait que c'était une décision trop injuste. Là, j'étais en réunion en intersyndicale dans une salle où les néons clignotaient, où les syndicats expliquaient tour à tour que c'était une décision irrationnelle, que ça n'avait pas de logique et tout ça. Bon, et donc je sortais de la réunion et j'étais jeune, j'avais pas osé prendre la parole. Et je suis allé voir un délégué syndical en disant, mais au fond, j'ai toujours pas compris pourquoi il y a cette délocalisation. Il dit, écoute, si tu veux comprendre, c'est simple. Tu lis ça, c'est le rapport, c'est CAFI Alpha pour l'intersyndicale. Puis tu lis ça, c'est le rapport du patron. Puis je pense que quand tu auras lu ça, tu auras un peu compris. Donc j'ai passé un excellent week-end à tout découvrir sur le marché du lave-linge, le marketing, et ainsi de suite. Mais enfin, il y avait une donnée de convergence dans ces deux rapports qui était que le coût de la main-d'œuvre dans un lave-linge produit à Amiens était de 12% et il était de 2% dans un lave-linge produit en Slovaquie. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, ça n'est plus du tout apparu comme une décision irrationnelle, injuste, un coup de tonnerre sur l'emploi. C'était une décision pleinement logique, complètement rationnelle et totalement justifiée d'un point de vue patronal. L'objectif des patrons, c'est quand même de faire du profit. Si c'est un moyen pour augmenter le taux de profit, on ne voit pas pourquoi, si ça leur est permis, ils s'en priveraient. Donc, et je me suis retrouvé dans plein sur plein de plans sociaux, parce que j'en ai fait un paquet. Hein. J'ai vu des gens se passer les menottes sur la direction départementale du travail. J'en ai vu d'autres occuper leur usine pendant des mois et des mois. Enfin, ça a été mon ordinaire, défiler dans des manifestations, distribuer des tracts, et ainsi de suite. Bon, j'ai assisté à un paquet de défaites. Et en fait, sur plein de plans où je me retrouvais, le dernier que j'ai fait, c'était par exemple Paris au siège de France, après j'ai décidé d'arrêter, où là, c'était des canapés qui partaient en Roumanie, Ils étaient trois fois moins chers en Roumanie, les canapés, sur la main-d'œuvre. Donc, bon, sur le coût de la main-d'œuvre. Donc, forcément, c'était logique. Et je me suis retrouvé dans plein de plans sociaux comme ça, à me dire, finalement, c'est emmerdant, mais les patrons ont raison. Vous voyez ? Donc, ça, c'est quand même. Alors, un cas qui a été emblématique pour moi, je suis actionnaire. C'est un aveu. J'ai deux actions LVMH. Donc, LVMH étant le premier groupe de luxe au monde, Bernard Arnault. Pourquoi j'ai deux actions LVMH ? Parce que je suis passé dans une entreprise qui s'appelle ECCE, entreprise de confection et commercialisation européenne, qui fabriquait des costumes Kenzo. Un costume Kenzo en sortie d'usine revenait à 80 euros, matières premières et main-d'œuvre, tout compris, ça revenait à 80 euros. C'était vendu, on est allé avec les ouvrières voir ça dans les magasins chics à Paris, chez Kenzo, c'était vendu 990 euros. Donc de 80 à 990 euros, ça laissait une marge appréciable, mais encore insuffisante, puisque à la direction de LVMH, on a calculé qu'en faisant fabriquer les mêmes costumes, non plus à Poix du Nord, près de Maubeuge, mais cette fois-ci à Kassovitz, en Pologne, on passerait de 80 euros à 40 euros. Donc aussitôt le calcul effectué, ils ont, comme ils disent, mis en œuvre la solution industrielle. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis allé dans l'usine, et il y avait une dame qui s'appelle Marie-Hélène Bourlard, je cite son nom parce qu'il y a dans des tas d'entreprises comme ça, des héros et des héroïnes anonymes qui mériteraient leur nom sur les plaques de rue bien davantage que des généraux. Et Marie-Hélène Bourlard, donc, elle avait son maître autour du cou, elle sifflait un coup, il y avait toutes les nanas qui descendaient des ateliers, tout ça. Elle faisait des réunions en disant du mal de Lucien Deveau, qui était le patron de CCE. Je lui disais, mais Lucien Deveau, personne ne le connaît. C'est peut-être que, vous voyez, tu regardes le donneur d'ordre, c'est qui ? C'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, si on vient le chatouiller un peu, peut-être que ça va davantage bouger. Donc, je lui ai dit, pour aller le chatouiller, on va aller en Assemblée Générale des Actionnaires. Et donc, on va prendre une action. Elle a pris une action. Donc, à la poste, ils étaient très, très, très surpris. Mais Bourlard, comment ça se fait, Parti communiste, évidemment. Elle est au Parti communiste. Comment ça se fait que vous prenez une action ? Bah, tout le monde a bien le droit de changer dans la vie, quand même. Donc, on se retrouve devant 3000 petits actionnaires en assemblée générale de LVMH. On était assez impressionnés, enfin, moi surtout. Et on ne voulait pas nous donner la parole, donc je ne me voyais pas. Elle a été la locomotive, elle est droit devant Bernard Arnault. Et elle lui a crié dessus, on peut dire. Elle n'avait pas le micro non plus. Hein. Donc, il fallait que ça hurle. Elle lui a dit. Est-ce que vous êtes prêt à faire moins de bénéfices pour re-signer un nouveau contrat avec ECCE pour garder la production française ? Parce que c'est 147 salariés qui vont être dehors. Alors là, Bernard Arnault lui a répondu, lui avait le micro, donc il n'avait pas parlé aussi fort. Je suis désolé des problèmes que ça peut poser aux personnes. Vous voyez, il était plein de compassion, vous voyez. Mais le problème de fond, c'est la différence de coût de revient pour un certain nombre de métiers, dont la confection, entre la France et nos voisins d'Europe. Bon, moi j'entends ça, je suis d'accord, je trouve ça logique au fond. Marie-Hélène Bourlard ne raisonne pas tout à fait de la même manière. Vous continuez à délocaliser dans les pays de l'Est. Il y a les 147 salariés qui sont là. J'aimerais que vous les voyiez, que vous osiez les voir là, dehors, en face, et leur dire « Je ne veux plus travailler avec vous ». Alors là, Bernard Arnault lui rétorque. « Est-ce que Kenzo doit être le seul, sur le marché international, à payer ses costumes le double du prix que payent ses concurrents ? Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'actionnaire de LVMH ? Alors moi, je ne suis pas responsable, si vous voulez, des problèmes qui sont structurels à l'évolution de cette mondialisation, de cette, et c'est lui-même qui détache les syllabes, européanisation. Et il me semble que là, Bernard Arnault, quand il énonce ça, il nous révèle le socle sur lequel son pouvoir est assis. C'est-à-dire que ce n'est pas un gars très courageux, Bernard Arnault. C'est le fils des maisons Férinel. Je ne sais pas si vous voyez, pour les plus anciens, dans les années 70, c'est des maisons pas chères, donc sa famille construit ça. Et dans les années 70, quand on lit sa biographie, les jours de 1er mai, il serait plutôt à se rouler sous la moquette. Le premier qui fait ses valises en 1980 et qui met tout le pognon dedans et qui part aux États-Unis parce que les Soviets arrivent à Paris en la personne de François Mitterrand, c'est Bernard Arnault. Donc on n'a pas affaire à quelqu'un de particulièrement courageux. Mais là, en Assemblée générale des actionnaires, malgré ce qu'il appellera ensuite la diablesse rouge, il ne tremble pas. Et quand on lit son livre, on voit bien pourquoi il ne tremble pas. Parce qu'il a, entre-temps, s'est construit ce socle, cette mondialisation, cette européanisation qui lui fait penser que, de toute façon, le bonheur, la sérénité qu'il vit aujourd'hui le rend indétrônable. Donc je lis son livre autobiographique qui s'appelle « La passion créative ». Il faut faire des sacrifices pour vous des fois. Les entreprises, surtout internationales, ont des moyens de plus en plus vastes et elles ont acquis en Europe la capacité de jouer la concurrence entre les États. L'impact réel des hommes politiques sur la vie économique d'un pays est de plus en plus limité. Il conclut lui-même heureusement. Il devient menaçant. Nous évoluons dans un système beaucoup plus mobile qu'il y a une quinzaine d'années. Face à cela, que peuvent faire les États ? Il leur est pratiquement impossible de s'opposer à une mobilité des entreprises à travers l'Europe. Et d'avertir, toute velléité nationaliste est vouée à l'échec. À trop augmenter les charges sociales et imposer les 35 heures à des entreprises qui n'en ont pas les moyens, le gouvernement risque d'accélérer le processus de délocalisation d'un certain nombre d'usines. Et il le met en œuvre. Alors, l'épilogue, on le vit aujourd'hui avec la délocalisation personnelle de Bernard Arnault en Belgique, mais je dirais que c'est un processus qu'il avait déjà largement mis en œuvre pour ses entreprises. Alors là, je vous ai parlé de l'aspect social, mais il y a d'autres aspects. Il y a un aspect fiscal dans le jeu sur le libre-échange. C'est l'aspect fiscal, c'est Bernard Arnault et sa dernière affaire en est la traduction. Mais le livre « La passion créative » est coécrit avec une personne qui s'appelle Yves Messarovitch, qui est journaliste économique bien sous tout rapport, c'est-à-dire qu'il aurait sa place éventuellement dans les nouveaux chiens de garde. Et il énonce ceci, Yves Messarovitch, dans Le Figaro magazine. Là où la fiscalité pénalise l'économie, la concurrence intra-européenne exercera une pression telle que nos futurs gouvernements devront renoncer à quelques aberrations qui alimentent d'importantes sorties de capitaux. Citons-en trois, l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les bénéfices des entreprises et les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu. Alors, l'ISF, les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu, on connaît. L'impôt sur les sociétés, on connaît un petit peu moins, je m'étends dessus, d'autant plus qu'en vérité, c'est la plus grosse rentrée fiscale de ces trois impôts-là, un peu moins symbolique, mais la plus grosse rentrée fiscale. Aujourd'hui, le taux affiché de l'impôt sur l'impôt sur les sociétés est de 33,3%. Au milieu des années 80, ce taux était de 50%. Donc, vous voyez, déjà, il y a eu une chute assez importante. Mais 33,3%, c'est le taux qui est affiché. En vérité, le taux pour les entreprises du CAC 40 est de 9%, pour les multinationales, il est de 12%, et pour les PME, il est de 30%. Alors vous allez me dire, mais le monde est vraiment trop injuste. Comment ça se fait que les PME payent plus que les multinationales ? Bah, évidemment, parce que les multinationales ont la capacité de jouer sur la concurrence fiscale entre les États, de choisir où elles vont implanter leur siège. Par exemple, EADS, avant même que le groupe EADS n'existe, avant même qu'il y ait la fusion entre Daimler et Aérospatiale, enfin la branche aéronautique de Daimler et aérospatiale, EADS, il y a déjà une coquille vide qui s'appelle EADS, qui est installée à La Haye, parce qu'à La Haye, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values, vous voyez, avant même que la société n'existe. Bon, c'est en fait là, ce que je raconte, c'est ce qui se passe dans l'ensemble de l'Europe, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle une prime à la mobilité. Qu'est-ce qui est le plus mobile ? Ce sont les capitaux. Ce sont les capitaux qui risquent de fuir le plus rapidement. Donc, on ne va pas taxer les capitaux, sinon ils risquent de partir. Qu'est-ce qui est un peu moins mobile, mais qui reste quand même bien mobile ? Ce sont les entreprises. Donc, il faut supprimer la taxe professionnelle, il faut un choc de compétitivité, on pourra y revenir, qui diminue les impôts des entreprises, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui est le plus immobile, le moins mobile ? Pardon ? Ouais, c'est vous, c'est moi. Moi, j'habite à Amiens, j'ai deux gamins, j'ai les grands-parents qui sont autour, il y a le boulot, même s'il est à Paris, ainsi de suite. Bon, me délocaliser parce qu'il y aura un régime fiscal plus facile en Andorre, pour moi, ce n'est pas évident, vous voyez. Et voilà, donc, qu'est-ce qui se passe en Europe aujourd'hui ? C'est une hausse des impôts sur les personnes, c'est-à-dire les impôts locaux et la TVA. Et ça, c'est un mouvement qui est transnational parce qu'il y a un cadre économique qui est le même pour tous ces pays européens. Le dernier point, après le social, les impôts, j'en viendrai à l'environnemental. J'ai cette citation de Gary Becker, donc qui est un peu l'équivalent de Yves Messarovitch, mais en version américaine, dans Business Week. Alors c'est une citation qui date de 1993. J'insiste un petit peu là-dessus parce que 1993, c'est le moment où en France est signé le traité de Maastricht, se met en œuvre l'Europe de Maastricht, et c'est le moment où aux États-Unis, histoire parallèle, enfin en Amérique du Nord et en Amérique centrale, histoire parallèle, il y a le traité sur l'accord de libre-échange nord-américain entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Et donc on est à la fondation de cet ALENA, et que dit Gary Becker ? Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en voie de développement. C'est-à-dire qu'il y a là, chez les dominants, une conscience, dès la fondation de ces espaces régionaux de ces vastes espaces régionaux, des avantages qu'ils vont pouvoir en tirer. Tandis que nous, on avance dans cette histoire, le nez dans le brouillard, avec la paix entre les hommes, la prospérité, et ça va redonner de la croissance, et ainsi de suite, vous voyez. Alors, dans le même registre sur l'environnement, je peux m'étaler là-dessus, hein, mais on a Laurence Sommers, qui était alors chief économiste à la Banque mondiale, qui est depuis passé conseiller de Barack Obama avant de quitter le poste. Juste entre vous et moi, c'est une note interne. La Banque mondiale ne devrait-elle pas encourager davantage la migration des industries sales vers les pays les moins développés ? La logique économique derrière le déchargement des déchets toxiques dans les pays aux salaires les plus bas est irréprochable, et nous devons la regarder en face. Alors cette note de service était intitulée « Good Environmental Practices »,« Bonnes pratiques environnementales ». Elle date de 1991. Donc là, on voit bien comment le libre-échange produit un dumping social, fiscal, environnemental. On le voit bien même au quotidien. Le journal là, que j'achète, L'Héros du jour, bon, vous avez trois boîtes qui sont annoncées sur le départ. Quand je lis l'UMA de la semaine dernière, mais c'était dans Le Monde notamment, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir un rapport sur la compétitivité remis par Louis Gallois qui plaide pour un choc de compétitivité et ne pas faire de ce sujet la compétitivité monopolisée par l'UNP. Il faut en faire une thématique de gauche, vous voyez ? Je veux dire, pour moi, à partir du moment où on accepte le mot compétitivité, on est sûr de perdre. Parce que c'est comme un hamster qui se trouve dans une roue. On fait plus de politique. On doit juste pédaler plus vite, éventuellement pour moins cher, plus longtemps, parce que les travailleurs chinois, roumains, allemands ont moins de retraite, moins de droits, et ainsi de suite. Donc là, je pense que le mot compétitivité est la clé. Et si on ne regarde pas comment transformer les conditions macroéconomiques pour plus qu'il y ait de compétitivité à mener avec des pays qui ne respectent pas ou voire produisent en Europe, en intérieur de l'Europe, ce dumping social, fiscal, environnemental, on en sera fatalement que dans des politiques enserrées dans des étaux ou, pour prendre une autre formule, une autre image, comme une falaise qui érode, dont les droits s'érodent petit à petit. Et le choc de compétitivité qui nous est promis par Louis Gallois va évidemment aller dans ce sens, puisqu'il va s'agir d'une diminution des impôts sur les entreprises et d'une augmentation des impôts sur les personnes. Dans le même temps, le gouvernement met en œuvre un grand plan de flexibilité, soi-disant que ça sera donnant-donnant, mais on voit bien comment tout le programme encore actuel va exactement dans la même logique qui est d'éroder les droits.
Vous êtes bel et bien sur Divergence FM en train de suivre une conférence du journaliste François Ruffin captée le 8 octobre 2012, salle Guillaume de Nogaret à Montpellier. Something good. Oh, something good. Oh, something good. Oh, something good tonight. Make me forget about you for now. Thank you.
Alors, face à ça, j'en viens à ma partie pour le protectionnisme. Je me suis dit, mais à un moment, si c'est comme ça, peut-être qu'il faudrait des barrières douanières. Mais voilà, je le prononçais comme ça parce que j'avais un peu honte. Ouais, je me dis, mais je ne suis pas fasciste. Je ne suis pas xénophobe. Comment ça se fait que je pense qu'il faudrait relever les droits aux frontières, donc je commençais à énoncer les choses comme ça. Et puis, en fait, c'est surtout la faiblesse de la réaction qui me surprenait. Quand je vais chez Whirlpool, la première fois, là, je vous le dis, je remets les rapports le lundi suivant, je remets les rapports aux responsables syndicaux, je le remets à un gars de la CGC, je lui demande, mais qu'est-ce que vous comptez faire ? Il me dit, ce qu'on compte faire, en fait, on a réfléchi avec les copains, on a une idée, on va prendre des autocollants, et puis on va aller chez Darty, on va mettre des autocollants produits en France sur les lave-linges. Je dis, super. J'étais jeune, alors je la fermais, vous voyez, j'ai un responsable syndical en face de moi, je me dis, il doit savoir ce qu'il raconte, quoi, plus ou moins. Bon, donc je laisse tomber. Mais ça me paraissait quand même très, très nettement suffisant. J'entends, ça me paraissait en vérité être pire que mettre un pansement sur une hémorragie, quoi. Et en matière de pansement sur une hémorragie, je suis à la CGT, personnellement, au SNJ-CGT, mais ce qui ne m'empêche pas de critiquer des camarades. J'ai énoncé le cas DCCE, tout à l'heure, donc une boîte de textile. Je regarde le journal de la CGT Textile Habillement Cuir, qui sur le constat est impeccable. Mais tous, ils sont impeccables sur le constat. Hein. De l'UMP, les Verts, le Parti Socialiste, Arnaud Montebourg, sur le constat, il n'y a pas de problème, tout le monde est impeccable. Bon, alors, depuis plus de 20 ans, nos professions du textile, de l'habillement et du cuir souffrent de la politique patronale. Faire produire au moindre coût. On supprime dans nos branches en moyenne 1500 à 2000 emplois par mois dans une quasi-indifférence. La fin des accords multifibres en 2005 avec la Chine a provoqué plus de 60 000 suppressions d'emplois sur les trois dernières années, ainsi de suite, ainsi de suite. Le diagnostic, il est clair, c'est une critique du libre-échange. Jusque-là, on est d'accord. Le libre-échange, l'ouverture des frontières, conduit à la destruction d'emplois dans les pays développés. Est-ce qu'on va donc s'attaquer à ce libre-échange, à cette ouverture de frontières ? Pas du tout. S'attaquer aux dérives des délocalisations ne veut pas dire refuser la mondialisation et les échanges ou s'arc-bouter sur le protectionnisme. Il ne saurait être question de rejeter la nécessité des échanges commerciaux au plan international. Le protectionnisme à tout craint, bon, pourquoi pas du protectionnisme tout court plutôt qu'à tout craint, porte une logique de repliement et d'isolement où l'on aura tout à perdre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a un constat qui est juste, une analyse qui est juste, et ensuite, ça débouche sur rien, en fait, sur vraiment pas grand-chose. Alors, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, souvent, les partis étaient dans une forme d'attente. Où les militants étaient dans une forme d'attente. Chez les Verts, ce qui va dominer, c'est l'attente de la hausse du pétrole, par exemple. Naturellement, il va y avoir un mouvement de hausse du pétrole qui va produire une relocalisation des emplois. Dans la gauche radicale, il va y avoir une élévation de la lutte au Bangladesh, vous allez voir, et ça va produire une hausse des salaires, et la hausse des salaires va ramener les emplois en Europe, vous voyez, avec tout un discours sur les relocalisations. Nous, on a fait des calculs à Fakir, puisqu'on est quand même un institut de statistiques réputé. Non, mais vous savez, pour démonter des idées, il n'y a pas besoin d'être 15 000 et il n'y a pas besoin d'avoir fait un cerveau qui soit celui d'Einstein, quoi. Vous voyez la littérature du Conseil régional qui vous parle de relocalisation. Vous allez les interroger sur la réalité des choses. Vous téléphonez au ministère de l'Industrie, vous leur demandez combien il y a d'emplois relocalisés. Il y a des personnes qui ont fait quelques évaluations. C'est 70 emplois qui partent, un emploi qui rentre, à peu près. Bon. Et au Parti socialiste, ce qui domine, c'est la formation. Il va y avoir une élévation de la formation au sein des travailleurs occidentaux. Et du coup, il va y avoir des postes qualifiés pour ça. Bon, vous voyez, on est dans des phénomènes où, en fait, il n'y a rien à faire. Domine un certain passivisme. Ça, c'est un mot d'Emmanuel Todd. Ce passivisme, il a une explication, on pourra y revenir. C'est la sociologie des organisations militantes. Et il ne faut pas en exclure le fond de gauche. Et il ne faut pas en exclure la gauche radicale, qui est un lieu où domine la petite bourgeoisie intellectuelle, pour ce qui est du front de gauche. Mais pour ce qui est du Parti socialiste, ça peut être la bourgeoisie tout court, et encore davantage pour l'UMP. Et où, effectivement, on n'a pas à se poser en permanence pour soi, la question du maintien de l'emploi. Et j'en parle pour moi aussi. Moi, jamais une seule fois, quand je suis rentré au bureau de là-bas, si j'y suis en septembre, Daniel Mermet m'a dit, écoute, François, on a trouvé un Roumain, là. Non, il est vraiment bon. Ah, il parle bien français, il se débrouille bien politiquement, tu vois, il y a de la jugeote. Non, non, il comprend. Bon, il y a quelques réglages à faire, mais ça va aller, ça va le faire. Bon, il nous produit des reportages pour à peu près 3 fois moins cher que toi, si tu peux, voilà. Bon, ça m'est jamais arrivé une seule fois. Concrètement, c'est ce qui se passe aux copains de Goodyear sur la zone industrielle. Donc, ça produit un rapport à la mondialisation qui est complètement différent. Où je ne dis pas que les militants de gauche vont adhérer, considérer comme à la main que c'est la mondialisation est heureuse et ainsi de suite, mais enfin, on va l'accepter. On ne va pas chercher à l'affronter frontalement et à lui rentrer dedans. Vous voyez ? Bon, on va trouver des moyens de composer avec. Donc, voilà. Alors, je disais comment j'en suis venu. Tout ça m'a amené à penser que finalement, les barrières douanières, ça serait peut-être pas si mal, tout ça. Donc, je commençais à en discuter, comme ça, à droite, à gauche. Puis surtout, ce qui m'a étonné, c'est le mutisme sur cette question. Je vais boire un coup, quand même.
Vous êtes bel et bien sur Divergence FM, en train de suivre une conférence du journaliste François Ruffin, captée le 8 octobre 2012, salle Guillaume de Nogaret, à Montpellier.
C'est la fin, on n'y peut rien, au bout du chemin, mais c'est certain, on y revient, c'est la fin, c'est malin. Thank you.
C'est le mutisme sur cette question. Par exemple, vous connaissez Maurice Allais ? Il y a quelques oui quand même. Vous connaissez Alain Minc ? Jacques Attali ? Allez, un dernier pour la route. Pascal Lamy. Vous avez vu, c'est d'ailleurs Pascal Lamy cette semaine, dans Le Point, c'est l'un des hommes qui, heureusement, nous dit la vérité sur la réalité du monde. Vous voyez, avec Angela Merkel, Raroy, bon, c'est Jean-Claude Trichet, voilà ce qu'il nous faut faire. Bon, donc, est-ce que Pascal Lamy, Alain Minc ou Jacques Attali disposent d'un prix Nobel d'économie, ou plus exactement, d'un prix de la Banque de Suède d'économie ? Non, ils n'ont pas ça. Le seul prix Nobel français d'économie, c'est Maurice Allais. Bon. Savez-vous où est parue la seule interview avec le seul prix Nobel d'économie ? Libé ? Alors là, c'est mal connaître Libération. Non. Le seul entretien... Non, c'est Fakir. C'est Fakir. Le seul entretien avec le prix Nobel d'économie, c'est Fakir. Ça en dit quand même long sur l'ostracisation d'une idée, parce que qu'est-ce qui s'est passé pour Maurice Allais ? Maurice Allais est un homme plutôt de droite. Il se dit socialiste, libéral. Vous voyez un peu le truc. Il est reconnu, il a colonne ouverte dans Les Échos, Le Figaro, L'Expansion, et ainsi de suite. Jusqu'au début des années 90, où là, il se dit, il est partisan d'une Europe fédérale. Et là où il se dit, non mais ça va plus du tout là. Là, la manière dont se passe l'Europe et la mondialisation, on a deux solutions. Soit on va aller vers une dégringolade des salaires et on évitera un chômage de masse, flexibilité des salaires, pas de chômage de masse. Soit on va avoir une rigidité des salaires qui entraînera un chômage de masse. Ouais, et on a les deux. Bon. Mais en gros, voilà le raisonnement qui mène au début des années 90. Il dit contre ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut refuser cette mondialisation et il faut revenir à un certain degré de protectionnisme pour réinstituer des règles face au marché, et ainsi de suite. Bon. Il pense ça. Alors là, lui qui avait colonne ouverte partout, il ne peut plus écrire nulle part. À tel point qu'en 2005, il cherche à prendre la parole pendant le débat sur le TCE. Il n'y a pas la place dans le monde. Il n'y a pas la place dans Les Échos, il n'y a plus la place au Figaro, et ainsi de suite. Bon, il va y avoir le seul journal, lui qui est un anticommuniste notoire, hein, franchement, le seul journal qui va accepter sa prose en 2005, c'est l'Humanité. Et pour lui, c'est un drame personnel. Mais voilà, ça en dit long. Et je vous dis, le seul entretien le seul prix Nobel français d'économie est Paris dans Fakir. Ça en dit long quand même sur l'ostracisation d'une idée. Et cette censure, elle produit une autocensure. Elle produit une autocensure qui est, par exemple, je me rends dans le Vimeux. Alors, le Vimeux, c'est le long de la mer, presque, toujours dans la Somme, rassurez-vous. C'est une terre d'anarcho-syndicalisme. On appelle ça le Vimeux rouge parce qu'il y avait beaucoup de boîtes de métallurgie et ainsi de suite qui lentement délocalisent vers la Chine, notamment de la serrurerie. Quand je me rends à l'Union locale CGT du Vimeux, à la Bourse du Travail, il y a Gilles Hummel, le secrétaire de l'Union locale, qui est en train de stabilo-bosser sous un tableau Excel en décidant de qui seront les personnes qui vont partir dans le prochain plan social chez Valentin qui fabrique des pommes de douche. Pas qui décide, mais qui marque voilà, quelles sont les personnes qui répondent le plus aux critères, ainsi de suite. C'est pour vous dire un peu l'ambiance. Bon. Et je lui demande, mais je lui dis, mais contre ça, qu'est-ce que vous comptez faire ? Il dit, avec les copains, on a une idée. On s'est dit, on va aller chez le roi Merlin et on va coller des étiquettes sur les pommes de douche. Alors, il faut dire que pour moi, à peu près une petite dizaine d'années s'étaient écoulées, donc je ne fermais plus ma gueule de la même manière. Je dis, attendez, là, vous déconnez quand même. Vous vous rendez compte de l'ampleur du problème ? Et vous, ce que vous proposez, c'est d'aller coller des étiquettes chez le roi Merlin. Non, mais là, en plus, c'était quand même un militant communiste, tendance Grometz, vous voyez, ça rigole pas, quoi. Et ce qu'il propose, c'est ça. Non, je dis, non, mais... Et le protectionnisme, vous en pensez quoi ? Il dit, c'est un mot qu'on n'ose pas prononcer. Ça veut dire que c'était quelque chose qui le taraudait, qu'il avait à l'esprit, mais voilà, il y avait un interdit qui pesait là-dessus. Et pourquoi il y a un interdit qui pèse là-dessus ? Parce qu'ils ont transformé, je dis souvent, une option économique, ils l'ont transformée en valeur morale. Ça, il suffit d'entendre, par exemple, Alain Duhamel, pour prendre le meilleur d'entre eux, à la radio. Qu'est-ce qu'il dit ? On est dans une grave crise. Et dans des crises de ce genre, il y a toujours des tentations de protectionnisme, de nationalisme, de racisme, de xénophobie. Voilà un signe d'égalité, d'équivalence qui est posé entre tout ça. On a Christian Saint-Étienne, donc c'est le meilleur. J'en ai un paquet, j'ai du Lamy, j'ai du Bavrez, j'ai du Marie-Paul Virard, ainsi de suite. Mais enfin, Christian Saint-Étienne, lui, c'est le meilleur, économiste bien libéral, mais qui se fait historien, là, soudain. Cela finit toujours par le régime national-socialiste. Bon, vous voyez, quelque part, si vous êtes partisan du protectionnisme, je ne dis pas que vous êtes des nazis, mais enfin, vous faites le jeu des nazis, vous voyez. Bon. Voilà, mais là, c'est du national-socialisme. Hein. Il y a plein de choses à rétorquer à ça. La première chose, c'est qu'il y a des tas de régimes complètement différents qui ont usé du protectionnisme. Alors, ça a été l'Angleterre, les États-Unis de Roosevelt, ça a été la France de De Gaulle. Enfin, ça a été une série de régimes qui ne sont pas des dictatures non plus. Bon, l'autre truc que je rappelle, c'est qu'aujourd'hui, le protectionnisme, il existe. Et il n'existe pas sur les capitaux et sur les marchandises. Là-dessus, qu'on se rassure, tout va bien. Mais en revanche, il existe sur les personnes. Au niveau des États-Unis, je vous parlais tout à l'heure de l'ALENA. Au moment où se met en place l'ALENA, on construit un mur entre les États-Unis et le Mexique avec de la vidéosurveillance, des milices privées, des parpaings, des GPS, des caméscopes, des lunettes infrarouges, 1100 km de barrières qui font, d'après une commission des droits de l'homme, plus de 5000 morts en 15 ans. C'est-à-dire que chaque année, il y a plus de morts sur ce mur-là que sur le mur de Berlin pendant la totalité de son histoire. Bon, et tout ça en régime de libre-échange. Bon, l'Europe, on pourrait dire que ce n'est pas beaucoup mieux, puisqu'on a des patrouilles qui circulent sur les mers pour éviter qu'il y ait des embarcations qui arrivent sur nos côtes, puisqu'on va former les troupes indigènes au maintien de l'ordre sur leur propre terre, et tout ça, toujours en régime de libre-échange, y compris avec les pays tiers, supposés. Donc c'est quand même assez étonnant de se dire que ces hommes, aujourd'hui, qui pratiquent le protectionnisme sur ce terrain-là, qui ferment, qui posent des murs sur ce terrain-là, sont ceux qui vont créer au racisme, à la xénophobie, si jamais on décide de passer de 2 à 20% les taux, les barrières douanières sur les pneus en caoutchouc en provenance de Thaïlande. Vous voyez ? Là, si vous faites ça, vous êtes un xénophobe. En revanche, si vous construisez des murs, ça pose moins de soucis quotidiens. Alors, je dirais que pour terminer là-dessus, et puis j'ai encore une dernière petite chose à dire, mais que cette autocensure, elle vaut aussi sur le terrain politique. Je le disais dans le programme L'Humain d'abord, le mot protectionnisme n'est pas prononcé, et c'est pas qu'on ne s'étend pas sur sa question, c'est que cette question n'est pas abordée. Et je pense que c'est une faute politique. Alors je sais que le Front de gauche est une alliance de groupes différents et que pour maintenir le front, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Mais je pense que justement, le temps qu'on a, c'est-à-dire les années sans élection, c'est des années où doit se forger un programme aussi. Et il faut en profiter pour se poser ces questions-là. Et je pense que c'est une faute sur le terrain du compte pour lutter contre le dumping social, fiscal, environnemental, mais c'est aussi une faute politique que d'ouvrir ce boulevard au Front National. Mais on y reviendra peut-être dans le fil du débat. Le dernier point, c'est quand on a dit qu'on est favorable au protectionnisme, on n'a rien dit. Parce que la question à se poser, c'est à quel protectionnisme on est favorable. Pour moi, le protectionnisme est un outil. C'est un moyen, ce n'est pas une fin. Ça veut dire que cette arme, elle n'a pas du tout le même sens si elle est entre les mains du Front de gauche ou si elle est entre les mains du Front national. Cette arme a un avantage par rapport à d'autres armes, c'est qu'elle n'est pas inventée. Elle est à portée de main. Les douaniers savent faire. Il suffit de leur demander. Techniquement, ça ne pose aucun souci. On a les hommes pour faire ça, on a les moyens informatiques et ainsi de suite pour le faire. Donc ce n'est pas un truc qui est techniquement compliqué. Cet outil, il suppose d'avoir une politique industrielle. Ça veut dire, je ne dis pas, moi, il faut passer, c'est 2% à peu près, les barrières douanières aux frontières de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est 2%. Je ne dis pas qu'il faut passer de 2 à 20% sur l'ensemble des produits. Ça serait complètement stupide. il y a un certain nombre de produits qu'on peut renoncer à produire, qu'on ne peut pas produire ici, par exemple des produits agricoles, et il y a des produits sur lesquels on devrait avoir un protectionnisme défensif pour au moins maintenir le savoir-faire. Je pense à l'affaire des soutiens-gorge l'année dernière, où par exemple on aurait pu instaurer un quota pour qu'il y ait un certain nombre de soutiens-gorge qui demeurent produits sur le territoire. Et ça veut dire aussi un protectionnisme offensif. Si on décide de vraiment passer aux panneaux photovoltaïques, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais ça veut dire que voilà un secteur qu'il faut développer, sur lequel on ne sera pas immédiatement compétitif, pour ainsi parler, et que du coup, il faut protéger pendant un certain temps avant qu'il puisse fonctionner. Ensuite, il faut dire que cet outil peut se décliner en toute une série d'outils. C'est les droits de douane, mais c'est aussi les quotas, ce sont des normes techniques, c'est un certain nombre de choses. Ce n'est pas forcément seulement des droits aux frontières. C'est protégé, mais c'est protégé contre qui ? Moi, je ne dis pas qu'il faut se protéger des Chinois. Je dis qu'il faut se protéger des multinationales qui passent par la Chine pour pratiquer le dumping social, fiscal, environnemental. Ensuite, je pourrais y revenir ensuite, mais je suis pour un protectionnisme internationaliste. Et ça existe. Je veux dire que je suis en contact régulier avec les organisations, par exemple, paysannes au Burkina Faso, sachant que l'essentiel des pays du Sud, ça reste des paysans. Contre quoi ils se battent ? Ils se battent contre le condensé de tomates chinois, ils se battent contre les poulets bretons. Et je dirais que notre rôle, en étant internationaliste, c'est de penser que c'est une nécessité pour les ouvriers du Nord, sans doute, que ce protectionnisme, c'est un impératif pour les paysans du Sud. Je suis pour le protectionnisme dans les deux sens. Je suis aussi contre le fait qu'on exporte des poulets doux, par exemple, sans normes et ainsi de suite, vers les pays du Sud. Je pourrais revenir sur la question des poulets qu'on a traité en long en longueur dans le dernier numéro, notamment avec l'exemple camerounais qui a réussi à produire la renaissance de son aviculture parce qu'il est passé par du protectionnisme. Le cadre dans lequel on le fait, alors là, j'aurais une divergence avec la camarade du Front de Gauche qui s'est... Je suis un compagnon de route, je ne suis pas membre du Front de Gauche. Hein. OK, l'idéal, c'est un cadre européen. On est d'accord. L'idéal, on va dire que c'est un cadre européen dans lequel on le fait. Maintenant, quel est l'espoir que ça puisse se réaliser comme ça, dans une Union européenne qui fonctionne à 27, qui a pour socle la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers, c'est ça qui est important, c'est y compris avec les pays tiers, ça depuis maintenant une éternité, qui répète ça toutes les trois lignes dans ces traités, et avec des intérêts complètement divergents au sein de l'Europe, avec des pays qui ont objectivement intérêt à jouer sur une main-d'œuvre pas chère, d'autres qui ont intérêt à jouer sur de dumping fiscal, ainsi de suite. Donc ça me paraît complètement utopique, irréaliste de concevoir l'histoire comme ça. Ce que je pense, moi, je reprendrai là les propos d'un Jacques Généreux, qui est économiste au Front de Gauche, mais qui pense que, de toute façon, que ce soit sur le terrain monétaire ou sur le terrain des échanges, il faut qu'il y ait un pays qui rompe avec la doxa, que ce soit la France, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, parce que je parle de l'Italie et de l'Espagne parce qu'ils sont encore plus près du gouffre que nous, et que ça allume comme une lumière dans les pays alentours qui se disent « si eux le font, pourquoi pas nous ?» Si l'Italie le fait, que l'Espagne le fait, bon, on est capable de le faire avec la Belgique, et éventuellement d'avoir à nouveau là, un marché commun, mais avec des pays avec lesquels on peut trouver des normes sociales, fiscales et environnementales qui sont beaucoup plus proches qu'avec la Pologne, et sans qu'il s'agisse de jeter la pierre à la Pologne. Enfin, le dernier point, pour moi, ça serait qu'il faut... Ce protectionnisme, il faut le dire. Il ne faut pas le cacher. Il faut afficher... Il faut le dire parce qu'en le disant, on se contraint à afficher ses buts. Le but, ce n'est pas seulement le statu quo, mais c'est le mouvement. C'est non seulement de lutter contre le dumping social, fiscal, environnemental, mais d'avoir un cadre pour imposer des règles qui permettent d'améliorer les règles environnementales, de renouer avec le progrès fiscal et avec le progrès social et avec la justice fiscale. Je vous disais tout à l'heure, le dernier plan social que j'ai fait, c'est Pariso siège de France. Après ça, je me suis dit stop, je veux plus y aller. Je connais l'histoire d'avance. Je sais comment ça se termine. Pendant ce plan social, j'ai dessiné un arc des défaites façon calligramme avec toutes les défaites industrielles que j'ai subies, que les salariés ont subies, mais que j'ai subies en tant qu'observateur à leur côté. Et pendant que je prenais la route pour aller assister à la vente aux enchères du matériel, c'était le 17 octobre 2008, j'allume la radio et je tombe là-dessus sur France Info. D'une manière tout à fait exceptionnelle, Laurence Parisot a pris l'initiative d'organiser à Paris une réunion des patronats des principaux pays membres du G8. Et pour déclarer quoi ? Nous attendons aujourd'hui des responsables politiques et institutionnels qu'ils écartent toute mesure protectionniste. Nous sommes convaincus que nos économies retrouveront le chemin de la croissance à condition que les pays écartent les mesures protectionnisme. Un mois et demi plus tard, c'était Ernest Antoine Seigneur, donc son prédécesseur au MEDEF, président de Business Europe, qui se réunissait avec ses copains américains, canadiens, japonais, et qui repoussait ce spectre du protectionnisme, qui signait ensemble un refus commun de toute forme de protectionnisme, en criant vivement l'avenir, qui devait ressembler au passé, en vérité. Et on avait encore, en mars 2009, donc 3 mois après, Laurence Parisot au G20, le premier point qu'elle cite avec ses camarades canadiens, américains, et ainsi de suite, c'est quoi ? Ce qui nous semble tout à fait essentiel est de dire clairement et le plus précisément possible à quel point il faut résister à toutes les tentations protectionnistes. Bon, il y a deux hypothèses à partir de ce moment-là. La première hypothèse, c'est que Laurence Parisot défend l'intérêt général et la démocratie. Ce n'est pas l'hypothèse vers laquelle on est la plus naturellement encline, mais il ne faut pas non plus complètement l'exclure. Bon, la deuxième hypothèse, c'est que Laurence Parisot défend ses intérêts de classe et ses intérêts personnels, et à ce moment-là, ce qui paraît plus vraisemblable, mais bon. Et à ce moment-là, je ne dis pas que quand les patrons répètent noir, 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 il faut de manière pavlovienne penser blanc, mais on peut au moins s'interroger sur la nécessité du blanc. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute.
C'était une conférence du journaliste François Ruffin captée le 8 octobre 2012, salle Guillaume de Nogaret à Montpellier sur invitation du Parti de Gauche 34. Une conférence à retrouver bien évidemment en podcast sur notre site www.divergence-fm.org accompagnée de toutes ses références.